Parler de l'ordre est intéressant parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça représente pour chacun d'entre nous. Et puis, on peut avoir aussi vouloir parler de l'ordre à deux niveaux. Au premier niveau, est-ce que c'est tout simplement une question, une consigne à donner à quelqu'un et qui doit l'exécuter? Ça peut être ça, l'ordre, hein, aussi. Mais ça peut être aussi un ordre tout simplement matériel. Vous allez bien ranger votre chambre, bien ranger vos dossiers. Ou troisième même point, effectivement, ça peut vouloir dire l'ordre, tout simplement mettre de l'ordre dans sa vie humaine, dans sa vie intellectuelle, dans sa vie spirituelle. Alors, quelle serait votre définition de l'ordre?
Il y a de l'ordre quand c'est bien rangé.
Voilà.
Voilà.
Et quel que soit dans le domaine.
Cela étant, c'est vrai que comme vous le suggérez fortement, on peut très bien, en obéissant à une consigne, montrer beaucoup d'ordre, mais être très désordonné à l'intérieur, parce qu'en fait, on obéit à la consigne, parce qu'on est obligé de le faire. Mais à l'intérieur, on n'y obéit pas. Hein, on le fait avec notre main, on le fait avec comment dire, on roule à 50 en ville, à 90 sur la route et à 130 sur l'autoroute, mais intérieurement, on meurt d'envie d'aller beaucoup plus vite,
D'aller
ou
plus
etc.
vite.
Donc, la définition de l'ordre, elle est très simple. Hein, c'est que les choses soient rangées d'après des critères qui sont vrais. Et bien sûr, ces critères ne peuvent venir que de l'Esprit de Dieu, qui est notre repère absolu. On pourrait même dire, en allant un tout petit peu plus loin, que faire quelque chose de juste, c'est faire quelque chose de vrai, Dieu étant l'arbitre, parce que Dieu, qui est vérité, va me dire si c'est juste ou si c'est pas juste, en fonction de la vérité qu'il possède et qu'il est. Et alors, si ce que je fais n'est pas juste, c'est que c'est pas vrai et c'est que je suis dans le désordre.
Oui, vous êtes dans le désordre. Mais vous l'avez souligné, mais il faut quand même le développer. On peut donc matériellement être ordonné, mais être désordonné dans sa vie spirituelle, hein, par exemple. Donc je range bien ma chambre, mais la justice et la vérité de Dieu, ben, pour moi, c'est tout à fait secondaire, ou vice-versa.
Oui, par exemple.
Avoir de la pagaille dans ma chambre ou dans mon bureau, mais suivre effectivement parfaitement la vérité et la justice de Dieu.
Alors ça, j'ai tendance à dire non. Alors, je veux dire que quelqu'un qui range parfaitement sa chambre peut être très désordonné parce qu'en fait, la motivation qui le pousse à ranger parfaitement sa chambre serait un perfectionnisme épouvantable,
Une manie.
ou bien une peur, ou une manie, etc.
Ou
Et
la
là,
peur de quelqu'un,
ça,
oui.
c'est un désordre intérieur.
Oui.
Par contre, quelqu'un qui accepterait de vivre dans sa chambre toujours dans le désordre, alors à l'intérieur, il ne peut pas être ordonné.
Il ne peut pas être ordonné.
Hein, il me semble.
Oui, ça,
Parce que,
oui.
en fait, on est tous appelés à voir quelque chose de beau, de bien rangé, de profitable, de fonctionnel, etc.
Oui, bon, c'est votre point de vue. Alors moi, j'ai une idée qui me vient en tête, là, c'est que souvent on entend dire qu'il vaut mieux un désordre vivant qu'un ordre mort. Parce que l'ordre mort, c'est pas gai. Ça peut venir, comme vous avez dit, d'une peur ou d'une manie. Mais le désordre, c'est un aspect. Moi, je pense, contrairement à ce que vous venez d'avancer, que on peut être désordonné, être dans la pagaille matérielle, mais avoir la tête bien carrée vis-à-vis de Dieu, effectivement, puisqu'on doit parler de Dieu.
Et si ce que vous venez de dire était un peu deux options, hein, un désordre vivant plutôt qu'un ordre mort, mais il n'y a pas que ces deux options. Par exemple, un désordre vivant, pourquoi est-ce que quand il y a de la vie, il faut forcément être dans le désordre? Je crois que on est dans le désordre parce que quelque part, on a peut-être trop de vie,
Oui.
trop d'activité. Et si on a trop d'activités, alors c'est normal qu'on ne sache plus où on met ses affaires, qu'on accepte que la vaisselle soit pas faite, ou que. Etc. Je crois que quand on fait ce qu'on doit faire, alors j'ose peut-être suggérer, sans trop affirmer quand même,
Oui.
qu'on a le temps de le faire. Et de fait, ce qu'on fait, on peut le faire bien. Parce que l'ordre, il est lié au caractère bon, à la qualité de ce qu'on fait. Si on est désordonné dans ce qu'on fait, forcément, alors bien sûr, il pourrait y avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses qui vont nous surprendre. Mais quelque part, il y a aussi beaucoup de risques. Il peut y avoir beaucoup de choses médiocres, mal faites ou inopportunes, ou des choses qu'on ne contrôle pas parce qu'on n'aura pas pensé. Donc,
quelque chose qui peut nous échapper, oui.
C'est ça.
Mais en fait, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse la vaisselle, que vous avez pris cet exemple, et que je range bien ensuite la vaisselle dans le bahut, hein, et de plus avoir le temps de m'occuper, disons, de prier ou d'un frère qui est dans le besoin?
Alors, prenons les choses tout simplement. Quand je fais la vaisselle, je peux prier, déjà.
Oui, bien sûr.
Ensuite,
mais mon frère dans la difficulté...
S'occuper d'un frère dans la difficulté. Alors, s'il faut s'occuper d'un frère dans la difficulté, ben, je le fais. Et je ferai la vaisselle après. Mais je crois que les gens qui ne font pas la vaisselle sont quand même, je leur dis bonjour au passage, sont quand même des gens qui ne veulent pas faire la vaisselle. Hein, la vaisselle, même, aujourd'hui, on a des lave-vaisselles qui sont quand même pas très chères.
Oui, d'accord, c'est un exemple que j'ai pris, la vaisselle.
Voilà.
Hein, donc, mais il y a un problème de temps, parfois.
Et il y a aussi souvent des excuses, à mon avis.
Des alibis,
ouais,
d'accord.
Des alibis,
voilà.
Ouais.
Bon, alors, disons, au niveau de l'ordre, est-ce qu'il y a une relation entre l'ordre et la liberté? On reviendra à ce que vous avez dit plus haut.
L'ordre et la liberté. L'ordre, c'est donc l'ordre, ça pourrait être faire ce que j'ai à faire d'une manière vraie, comme Dieu me le demande. Si je fais comme ça, alors je suis ordonné. La liberté, c'est la capacité que j'ai de dire oui ou de dire non à ce que j'ai à faire. Donc, c'est vrai que ma liberté dépend du fait que je sois ordonné ou pas, parce que plus je suis ordonné, plus je suis libre pour le faire. Plus je discerne la bonne manière de le faire, c'est-à-dire plus je suis libre, plus je comprends en fait comment bien faire les choses, plus j'ai envie de les faire librement. Mais plus je comprends comment bien faire les choses, plus je suis ordonné. Donc ces choses-là sont intimement lié par la vérité qui va sous-tendre mon action.
Oui, alors est-ce que ça ne va pas dans votre sens si je vous dis, si par exemple je respecte des horaires, c'est ordonné. Et certains vont me dire, oh là, c'est pénible de manger à la même heure, de le savoir, et ainsi de suite. Or, moi je trouve que ce n'est pas vrai. Parce que si je sais que je mange à 19h30, je sais jusqu'à quand je peux travailler, jusqu'à 19h30, et je sais qu'après, une heure après, par exemple, je peux me remettre à mon travail. Que si je ne sais pas dans la soirée à quelle heure je vais manger, 19h, 19h30, 20h, 20h30, bah, ça va m'amener dans la pagaille.
Absolument, et on pourrait aussi voir exactement la même chose, mais de manière un peu différente. Si je prévois de manger à 19h30, et que dans l'ordre qui me caractérise, je dis non, ce soir je mangerai plus tard, mais je ne sais pas exactement quand, ça reste très ordonné, parce que c'est une décision volontaire. Finalement, l'ordre, c'est de rester maître à bord, quel que soit le moment où je décide quelque chose.
Quand vous êtes maître à bord, comme
c'est
vous
ça.
Dites. Mais quand on n'est pas maître à bord, quand vous êtes dans un groupe, dans une famille, que les horaires changent, vous ne savez plus que faire. Hein.
Et
vous
à ce moment-là, l'ordre, c'est d'être soumis à l'autorité qui va me faire être dans un désordre.
Oui, d'accord.
Mais on peut être ordonné dans le désordre.
Voilà.
Hein, moi, ça m'arrive d'ailleurs assez souvent d'être dans des groupes dans lesquels je ne suis pas forcément celui qui décide. Et de ce fait, les décisions qui sont prises ne vont pas toujours dans le sens de ce que je ferais. Mais ça ne fait rien, on le fait. Et finalement, je me rends compte que ça marche différemment.
Voilà.
Et c'est un ordre que je n'aurais pas choisi.
Ça marche. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises de Dieu, de vérité et de justice. Alors, expliquez mieux, d'une façon plus concrète, ces notions vis-à-vis de l'ordre.
Alors, Dieu est quelqu'un qui me donne continuellement et absolument la connaissance de ce qu'il veut que je sache. L'Esprit de Dieu me montre les choses exactement comme le soleil éclaire ce que je regarde, et je sais que ceci est un ordinateur, que ça c'est une chaise, et que ça c'est une plante. Voilà. Et bien de la même manière, l'Esprit de Dieu en moi montre les choses et me fait accéder à la vérité et au mensonge. Et il me fait faire la différence entre la vérité et le mensonge. De sorte que quand je suis dans un face-à-face avec Dieu, dans une rencontre intérieure avec Dieu, dans une volonté d'entendre en moi la parole de Dieu et dans une volonté d'être malléable, ben je suis conduit dans la vérité. Jean 16, versets 7 à 14, le Seigneur Jésus parle à ses disciples et il leur dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, mais je vous donnerai le Consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. » L'apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean est quelqu'un qui va dire, en 1 Jean 2, 27, dans sa première épître, il va dire, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, demeure en vous. » Donc, je suis conduit dans cette vérité, et là où je veux regarder, je peux regarder d'une manière spirituellement valable. C'est là où je rejoins la notion de vérité de Dieu, et de fait la notion de justice, parce que je suis, moi, justifié par l'œuvre de Jésus-Christ, bien sûr. Hein, je ne mérite pas la relation avec Dieu, je ne mérite pas la vie éternelle, je ne mérite pas le paradis, je ne mérite rien de Dieu, mais par contre, après, une fois que j'ai bien compris que je suis en relation avec lui, alors il faut que je comprenne qu'il me conduit dans la vérité, et que cette vérité-là, elle m'est toujours accessible. Et c'est ça qui, fondamentalement, me permet d'accéder à l'ordre dans ma vie.
De nous expliquer effectivement une notion de vérité par rapport à Dieu, ce qu'on pense et on réfléchit à l'ordre. Mais il y a une autre notion que vous avez évoquée au début, c'est la justice. Alors, maintenant, développez ce point.
La justice. On ne connaît de la justice en général que ce que l'homme ou la société en révèle. Et dans notre société, en France, il y a quand même la France est un des pays dans lesquels la justice voudrait être la plus juste possible. Mais quand même, en France, la justice reste très très difficile à rendre. Quand, par exemple, quelqu'un a été tué, comment est-ce qu'on peut rendre justice? Dans l'absolu, c'est très difficile, c'est presque impossible. Et si un mari, une femme a son conjoint qui est assassiné, il pourra dire que dans un sens qu'on rende justice au tribunal, que la chose soit dite, avérée, que la personne soit condamnée, on peut dire que dans un sens on rend justice, mais fondamentalement, il n'y a que Dieu qui rende justice, et encore, je ne sais pas comment il le fera, je sais comment il l'a fait, je sais qu'il a condamné le péché en Jésus-Christ, mais je ne sais pas comment il le fera. Cela étant, la justice, qu'est-ce que c'est de manière générale? La justice, c'est ce que j'appelle être l'arbitrage de Dieu qui est selon la vérité. Et donc, quand je parle, Dieu compare ce que je dis et comment je le dis à la vérité, et de ce fait, il va dire, eh bien, ce que Guillaume dit, c'est juste ou c'est pas juste, et comment est-ce qu'il le dit, c'est juste ou c'est pas juste. Et donc, pour les chrétiens, par exemple, on pourrait dire que cette justice se traduit par une discipline affectueuse et paternelle de Dieu, où l'Esprit de Dieu nous conduit en nous faisant prendre conscience de ce qui ne va pas pour l'améliorer, ou en nous disant, ben oui, c'est satisfaisant ce qui va, et donc tiens ferme sur ce qui est important et qu'on reproduit-le, confirme-le, etc.
Et tout ça, on le comprend par l'esprit qui est en nous. Hein? C'est certain. Alors pour revenir sur, c'est peut-être une petite parenthèse, mais en fait, parler de la justice humaine, quand quelqu'un a son mari ou sa femme qui a été assassiné, c'est très difficile évidemment d'avoir une sanction, quelle qu'elle soit. Mais je trouve que les gens, actuellement, il y a une espèce d'évolution, et vous diront, vont réclamer justice, non pas pour qu'il y ait une sanction, mais pour faire leur deuil. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, souvent ils disent à la télé, hein, je ne connais pas particulièrement une foule de gens qui ont été victimes de ce genre de choses, mais qui disent, bon, ben maintenant on peut faire notre deuil. Donc à la limite, le coupable, ben, il a été reconnu coupable, ça leur suffit. Comme si inconsciemment, ils remettaient en fait la vraie justice à Dieu pour plus tard, puisque comme on l'avait dit, on ne sait pas comment Dieu rendra justice. Donc, je crois que ça, c'est un point peut-être important à avoir, hein, au niveau de la justice.
Je suis bien d'accord avec ça.
Et ça met de l'ordre dans les affaires, en fait. Oui.
Oui. Idéalement, le deuil est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faudrait pas néanmoins que le deuil masque le vrai besoin de justice. Hein, le deuil, c'est. On mène deuil parce qu'on sait que quelqu'un est mort, on sait comment quelqu'un est mort, on sait qui l'a tué. Mais le vrai besoin de justice, c'est que cette personne-là, à l'égard de cette personne-là, justice soit rendue. Et je trouve que si nous ne savons pas comment Dieu rendra justice, nous pouvons néanmoins faire l'expérience intérieure et profonde et vraie et réaliste de rencontrer ce Dieu par l'Esprit qui rend justice et que lui nous comble de quelque chose que nous ne savons pas très bien décrire. Alors je trouve ça personnellement très très vertigineux, très très fort, très très important que, par exemple, il m'est arrivé dans mon travail de parler avec des dames qui ont été violées. Et quelquefois, pas toujours, mais j'ai pu poser la question, qui est une question absurde et presque incorrecte, presque obscène, qu'est-ce que faisait Dieu quand vous avez été violée? Et ce qui permet peut-être de prendre conscience en fait du fait que Dieu s'engage de manière personnelle dans des situations qui sont extrêmement traumatisantes comme celle-là. Et le fait que Dieu s'engage montre aussi que Dieu s'engagera et qu'on a affaire à ce Dieu qui dit oui, j'étais là quand tu as souffert. Et donc mais je veux aussi te conduire vers quelque chose d'encore plus grand. Et sache peut-être que ce que tu as vécu, moi, je vais l'utiliser avec toi. Et ça va être quelque chose d'important. Et là-dedans, il y a des.
L'acte sera dépassé.
Oui, il y a des choses qui relèvent de la justice et qu'il faut que chacun entende et que chacun, comment dire, accueille et garde et qui participeront pour revenir à notre sujet, à un ordre intérieur et non pas un désordre. Par exemple, pour moi, la maladie mentale est du désordre intérieur. Le stress est du désordre intérieur. L'inquiétude est du désordre intérieur. Et quantité d'autres choses aussi. Et je voudrais qu'on comprenne bien que par le manque de justice, alors il y a aussi un désordre intérieur duquel on peut vraiment sortir.
Alors, on peut revenir, effectivement, parler d'ordre et de désordre, effectivement. Quels sont les désordres? Et qu'est-ce qu'ils entraînent, ces désordres? On prend de façon concrète, là.
Alors, parlons concrètement. On va prendre les choses les plus simples et commencer par le corps. Dans mon corps, un désordre, c'est par exemple de ne pas me laver et de sentir mauvais. Alors tout est relatif, parce qu'en fait, je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que nous finissons par ne plus sentir notre odeur personnelle, même le parfum qu'on va se mettre. Mais, alors peut-être que moi je sens mauvais pour certaines personnes, c'est
oui.
possible.
Ah là, oui, je passe pas à vous, mais voilà. On le dit par exemple de gens de notre race qu'ils ont une odeur, mais eux aussi, on les gêne parce que nous n'avons pas d'odeur.
Voilà. Alors, mais dans le corps, pour moi, sentir mauvais, c'est un désordre, sentir des pieds.
Oui, ça gêne tout le monde.
Être sale, avoir les ongles sales, comment dire, quand on renifler, par exemple, ou avoir, porter des vêtements sales, porter des vêtements qui sont ostensiblement pas repassés, être ostensiblement mal coiffé, mais alors là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus arbitraire.
Oui, parce qu'il y a du mistral.
Hein, voilà. Mais dans le corps, le désordre, c'est par exemple le cauchemar.
Oui.
Le corps, hein, c'est-à-dire en fait mon corps, dans mon corps, il se manifeste quelque chose qui montre que quelque part je souffre et qu'il y a des choses qui vont pas bien. Par exemple, chez moi, pour ce qui me concerne, ou même dans ma famille, j'ai remarqué que quand il y a des gens qui s'enrhument et des gens qui s'enrhument pas.
Oui.
Et personnellement, je suis quelqu'un qui s'enrhume pratiquement pas. Mais alors, quand je suis pieds nus, ça rate pas. Hein. Si je suis pieds nus et j'ai froid, je m'enrhume.
Oui.
Et donc, je crois que mon corps a une certaine forme d'ordre et qu'il faut que je respecte l'ordre de mon corps. Et de fait, quand je me lève, je mets mes pantoufles. Voilà.
Oui.
Alors, d'autres exemples, hein, mais vous en avez autant que moi. Hein, c'est ne pas ranger ma chambre, c'est justement ne pas faire la vaisselle, que ça soit sale par terre, ne pas arriver à me lever ou ne pas arriver à me coucher.
C'est des désordres.
Voilà. Dans mon corps, mais aussi quelque chose qui touche un petit peu à l'âme, c'est être bavard.
Voilà, trop parler, c'est un désordre.
Moi, je ne comprends pas les gens qui disent « je suis bavard ».
Ah oui, en plus, ils le disent... Il le dit parce que c'est le plaisir de parler aussi.
Il suffirait de dire, mais j'ai trouvé que s'ils étaient conséquents, ils diraient, mais j'ai trouvé que j'étais bavard, alors je parle moins.
Oui, mais le fait déjà de le dire, ils s'en moquent pas. Hein, oui.
Voilà, les gens qui disent, je ne peux pas m'empêcher de fumer. Ça veut rien dire, ça, je ne peux pas m'empêcher de. Il y a déjà un désordre dans l'expression, je ne peux pas m'empêcher de.
Un refus de faire un effort, c'est
voilà.
Ça, en fait.
Voilà. Ou bien les gens qui disent, vous savez, à mon âge, on ne se refait pas.
Mmh.
Oui, mais qui est-ce qui leur a dit ça? Comment est-ce qu'ils le savent? Comment est-ce qu'ils peuvent en être certains? Moi, je crois qu'au contraire, jusqu'à la mort, on est appelé à rentrer dans cet émerveillement de la vie avec Dieu, et dans lequel on ne contrôle absolument pas les changements.
Oui, là, voilà, c'est ça, on ne contrôle pas les changements, mais je peux vous assurer qu'à mon âge, on sent bien quand même qu'il y a des choses qui évoluent. On ne peut pas dire que je suis le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans.
Absolument. Ce
n'est pas possible.
Absolument. Et au contraire, il y a des gens qui vous diront, non, non, moi, je ne bougerai pas d'un poil. Ça fait 50 ans que je suis comme ça et je ne changerai pas. Mais ça, c'est vraiment dommage.
Oui, c'est vrai. On refuse cette fois de la réalité des choses. Effectivement, il se ferme. Alors physiquement, bon, évidemment, il refuse l'évolution, mais intellectuellement aussi, il se bloque. Il ne s'ouvre pas.
On peut parler aussi, pour être resté dans la généralité, de désordre émotionnel.
Eh oui.
Hein, des gens qui ne vivraient que par l'émotion, ou des gens qui au contraire veulent se blinder, ne jamais ni sourire, ni rire, ni éclater de rire, ni etc. Il y a des désordres relationnels, où les gens qui veulent toujours être avec tout le monde et qui disent mais dès que je serai seul, ça va plus, en fait. Hein. Ou au contraire, des gens qui, pour la relation, feraient n'importe quoi. Hein, où on est. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas bien, les désordres familiaux. Hein, où pour rester en famille, eh bien, là aussi, on fera des mauvaises choses, ou bien au contraire, de dire, moi, la famille, j'ai tiré un trait dessus, non, je ne veux plus la vivre. Ça, c'est pas bon. Les désordres au travail. Hein, au travail, on parle de, comment dire, d'abus, de pouvoir, de puissance, d'abus d'autorité,
Ou au
bien
contraire, ne
sûr.
pas respecter les consignes que l'on vous donne.
Voilà,
Oui,
absolument.
c'est
Hein.
sûr. Au travail, c'est sur le tableau que ça peut jouer, effectivement. Oui.
Voilà. On peut parler aussi de désordre ecclésiastique. Hein, tout ce qui dans les églises ne va pas, parce que ceux qui ont l'autorité. L'autorité devrait élever l'autre. Mais en fait, souvent, on profite de l'autorité qui nous est donnée pour la transformer en pouvoir et pour abaisser l'autre, ce qui est malheureusement souvent
C'est
le cas.
souvent le cas, oui. Puis on peut continuer, effectivement. Les conséquences alors de ces désordres, c'est peut-être effectivement peut-être une perte de temps. Par exemple, ne pas ranger sa chambre, puisque c'est un exemple qui vient fréquemment. Mais après, pour trouver l'objet ou le dossier que l'on veut, ben, on va perdre de temps. Ça peut entraîner, évidemment, disons, un manque de respect de l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous sentez mauvais, vous l'avez dit tout à l'heure. Il est sûr que ça va gêner l'autre et que c'est un manque de respect aussi de l'autre. Ça peut aussi entraîner ce désordre, l'énervement, la fébrilité de la personne qui va être la cause du rejet de l'autre. Vous n'avez pas le temps, vous êtes énervé, vous ne le recevez pas, vous ne l'écoutez pas et ainsi de suite. Donc il y a des conséquences, il y a des blocages,
Et dans tout
effectivement.
ce que vous venez de dire, je retiens que c'est toujours une perte par rapport à l'humain, par rapport à la qualité de l'humain ou par rapport à la qualité de la relation.
Oui.
Et ça, c'est vraiment dommage, ça.
Mais oui, parce que donc il me semble que Dieu veut un ordre respectueux, c'est de respecter les autres.
C'est ça.
De respecter les autres. Nous avons fait un peu un panorama de ce qui bloque, mais peut-être qu'il faudrait maintenant comprendre qu'est-ce qui empêche de mettre de l'ordre en soi.
Eh oui, et c'est quelque chose de très complexe, je trouve, parce que c'est très variable. Peut-être que les gens qui écouteront cet enregistrement diront « Ah, mais moi, ça m'a pas du tout parlé », et au contraire, d'autres diront « Ah oui, moi, ça m'a beaucoup touché ». Parce que ce qui empêche le changement, qui empêche de mettre de l'ordre, c'est très très variable suivant les gens. Je dirais que une première chose, quand même, c'est ce qu'on appelle le tempérament, ce qu'on appelle la personnalité. Ma personnalité, c'est l'ensemble de ce que je pense au moment où je le dis. Donc, moi, Guillaume, je suis Guillaume et aujourd'hui, on est mercredi et il est environ 17 h. Et donc, ma personnalité, c'est ça. C'est l'ensemble des choses que je pense et qui font que je vais réagir comme ça, je vais avoir tel souvenir, je vais avoir telle perspective, et de ce fait, je vais être capable ou non d'être ouvert à la critique. Si tout à coup vous me dites que par exemple je ne suis pas clair, je vais, suivant en fait tout ce que j'aurais vécu, je serai capable ou non, ou plus ou moins, de l'entendre et de dire, ah, il faut que je fasse un peu d'effort pour peut-être dire moins de choses, peut-être les dire avec des mots plus simples, que je coupe plus mes phrases, etc. Et donc, un blocage, c'est ma personnalité. La personnalité, elle est souvent perçue par les gens comme, vous savez, moi je suis comme ça, dans ma famille, on est tous comme ça. Par exemple, il y a une dame qui m'a dit, ma mère était dépressive. Ma deuxième fille est dépressive et moi je suis dépressive. Donc, monsieur, c'est pas la peine de vous fatiguer, vous n'arriverez pas à me changer.
D'accord, c'est immuable.
C'est immuable. Donc pour ces personnes-là, il ne peut pas y avoir de changement, en fait. Mais si la personne commence par comprendre que c'est elle qui se condamne au désordre, en affirmant qu'elle est désordonnée, si
Ben, bien
elle
sûr.
pouvait dire devant Dieu, mais moi, finalement, je ne sais pas ce que je suis. Donc je vais m'ouvrir à Dieu, je vais être simplement devant Dieu comme quelqu'un qui accueille sa parole et je vais tranquillement rentrer dans une évolution personnelle et un progrès. Alors là, j'ai parlé de la personnalité.
Oui.
Je vais donner un deuxième exemple qui relève de la personnalité mais avec quelque chose de tout à fait particulier. Il y a des gens qui fonctionne en réaction. Par exemple, quand il va faire beau, ils vont dire je suis content. Quand il va faire mauvais, ils vont dire je ne suis pas content. Des gens qui vont dire quand c'est midi, j'ai faim,
Oui.
etc. Des gens qui vont dire quand c'est vendredi soir, alors je suis content parce que je suis en week-end. Ou au contraire, qui vont dire quand c'est lundi matin, alors je ne suis pas content parce qu'il faut aller travailler. Et donc là, il y a un mécanisme réactionnel qui se produit. Des gens qui vont dire, quand je rentre à la maison, il faut que je boive un petit coup de Porto pour me remettre. Et donc, vous voyez qu'il y a une réaction entre la chose qui est concernée, le commencement de la semaine, le temps qu'il fait, le petit coup de Porto, et mon état. Et donc là, dans ma personnalité, il y a ce qu'on appelle en psychologie une formation réactionnelle.
Oui.
Et qui va faire que je peux m'habituer à fonctionner comme ça.
Oui, le petit
Ça,
porto de tous les soirs.
voilà. Ça, c'est un deuxième exemple de blocage qu'il faudrait enlever, en fait.
Bien sûr.
Hein? Et des blocages comme ça, il y en a de nombreux et il y en a de très variés. Hein? Il faut en faire la liste est impossible parce que il faudrait parler de tout le monde et en parler de manière très précise, mais peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles vous-même vous pensez et desquelles vous voudriez qu'on parle.
Je suis bloqué.
Voilà. Par exemple, ça peut être la peur
Oui.
d'arriver vers quelque chose dans lequel on n'a pas d'idée. Et au contraire, le fait de dire, mais je n'ai pas d'idée nous amène à parler de quelque chose.
Bien sûr.
Et c'est intéressant de voir comme, par exemple, la peur du désordre peut amener quelqu'un à être dans le désordre. Si je dis, moi, il faut surtout que rien ne soit en désordre, qu'il n'y ait pas de stylo qui traîne, de chaises mal rangées, etc. Alors chaque fois que je vais faire quelque chose, on parlait tout à l'heure de l'ordre qui tue et du désordre dans lequel il y a la vie.
Oui.
Eh bien, c'est vrai que ces personnes-là peuvent avoir des blocages. Et la grande question, je crois que c'est comment discerner ces blocages.
Oui, c'est ça, il faut en prendre
Il faut
conscience.
en prendre conscience.
Et c'est possible.
Et je crois que Dieu nous a dotés de quelque chose de magistral, d'universel, qui est la douleur, la souffrance. Si on avait le courage et la conséquence de regarder partout là où on souffre, pourquoi est-ce qu'on souffre? Alors on ferait terriblement des progrès sur ces blocages et sur ces désordres institués finalement. Quelqu'un qui va dire, moi de toute façon, dans un groupe donné, il faut que je parle, sinon je ne suis pas utile. Oui, mais ça c'est du désordre, ça.
Oui, c'est certain. En plus, ça peut ne pas être vrai.
ça peut ne pas être vrai. Et de ce
Oui.
fait, quand il arrive dans le groupe et qu'il souffre parce qu'il ne parle pas, alors il faut qu'il comprenne que son but de parler, c'est pas un bon but. Le but, c'est d'aimer, c'est pas de parler, en
Oui,
fait.
d'échanger et d'apporter quelque chose, mais c'est pas pour parler, c'est inutile là.
La souffrance a est quelque chose de très pédagogique. Et Dieu
C'est
nous
toujours un
a
signal.
dotés de souffrances corporelles, les gens qui ont mal à la tête. Pourquoi est-ce qu'ils ont mal à la tête? Les gens qui disent j'en ai ras-le-bol, j'en ai plein le dos,
Oui, plein
j'ai
de
les
dos.
tripes nouées,
Je me
hein?
fais du mauvais sang.
Je me fais du mauvais sang,
Ou de
et
la bile.
de la bile. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très, très parlant là, dans lequel il faut avoir peut-être un peu le courage de rentrer, le rôle de la souffrance, pour donc amener l'ordre. Je crois que Dieu nous appelle aussi avec son esprit à prendre conscience du désordre. Mais quelle est notre attitude face à l'esprit? Il y a un passage de la Bible, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Alors si par exemple, moi j'ai un but, c'est de surtout ne pas être pris en défaut. Vous imaginez, j'ai une imprimante, vous la voyez, elle est pleine de poussière.
Oui.
Hein? Voilà. Et donc, est-ce qu'on est gêné d'être pris en défaut ou pas? C'est ça la question, en fait.
C'est vous, ça vous gêne pas
Et moi,
qu'il y a de la poussière
ça me
sur
gêne pas.
l'imprimante.
Et donc, mais là où je serais éventuellement gêné, alors j'ai un chemin à faire, en fait, de progrès. Où Dieu me dit, ah, mais tu souffres. D'accord. Alors, mais si tu souffres, c'est peut-être parce qu'il manque d'ordre. S'il manque d'ordre, mais je t'en prie, rajoute-en.
Et bien voilà, à toi de jouer.
Hein? Voilà comment est-ce qu'il me semble que ces blocages peuvent sauter. Et bien sûr, quel est le meilleur moyen de faire sauter les blocages? C'est l'amour. C'est-à-dire que on attache plus d'importance à la personne qu'au désordre qu'elle communique. Alors il y a des gens pour qui c'est assez facile parce qu'ils ont pris cette habitude. Il y a des gens qui sont tellement axés sur ce qu'on fait, sur ce qu'il faut penser, sur ce qu'il faut dire, que dès que quelqu'un fait mal quelque chose, alors ils sont mal avec lui.
Oui, il le voit tout de
Et
suite.
ils le voient tout de suite.
Ça saute aux yeux.
Voilà. Et donc l'amour est quelque chose qui fait du bien à celui qui est dans le désordre parce que ça lui permet, eh bien, d'être face à quelqu'un qui peut être un véritable miroir, qui peut lui renvoyer son image et qui peut l'aider à progresser.
Bien sûr, oui, c'est en voyant l'autre, en voyant sa réaction et ce qu'il peut dire, qu'on comprend que on n'est peut-être pas dans la vérité et dans la justice, donc il y a quelque chose à faire pour nous. Alors, Guillaume, votre discours est bien ordonné,
Merci.
mais vous parlez comme un livre, je dirais, où il y a les pages, les chapitres, les paragraphes, bien sûr, mais dans la réalité, ce n'est pas peut-être aussi simple. Il faut quand même être ouvert pour qu'on se rende compte des conséquences fâcheuses de ce désordre, et qu'on découvre qu'on en souffre, et puis qu'on veuille bien, évidemment, en changer, faire un effort, s'ouvrir à Dieu. Bien sûr, d'accord. Mais certaines personnes qui vivent dans le désordre de leur bureau sont heureux et ce serait dramatique si on les obligeait ou si quelqu'un vient surtout extérieur mettre de l'ordre dans leur bureau. Alors, oui, pour mettre de l'ordre dans sa vie, certains, c'est une espèce de confort. Ils s'y sont faits et ils veulent bien y rester. Donc là, vous les poussez dans une situation un peu délicate, un peu difficile. Ou alors, comment réagir quand on est dans cette situation-là? On se laisse aller dans ce. Si on ne ressent pas de souffrance, pourquoi je mettrais de l'ordre dans mon bureau?
C'est tout à fait ce que vous venez de dire. Si on ne ressent pas de souffrance, moi je ne suis pas autorisé à aller dire à une personne qu'elle devrait changer. Ce que je peux faire à l'église, c'est rappeler ce que dit la parole de Dieu. Par exemple, dans l'épître aux Romains, au chapitre 13, il est dit qu'on ne doit pas se devoir d'argent. Hein, si je dois de l'argent à quelqu'un, alors je m'occupe de le rembourser. Et il y a un désordre. Mais si la personne dit en elle-même, je préfère te devoir de l'argent toute ma vie plutôt que de te le faire perdre, ce qui est pas
Ah,
faux, mais qui
oui,
est quand même
d'accord,
tordu,
dans
quelque
certains cas,
part, alors il y a une désobéissance par rapport à Dieu. S'il y a une désobéissance par rapport à Dieu, alors il y a forcément une blessure. On ne peut pas être désobéissant et ressortir indemne de la désobéissance. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si quelqu'un ne souffre pas, ben, je ne peux pas lui dire comment est-ce qu'il peut sortir de sa souffrance puisqu'il ne souffre pas. Mais par contre, dans un partage amical, je peux aussi dire, tu sais, j'ai vu que tu fais ça et tu fais ça, est-ce que ça va? Est-ce que tu en es vraiment content? Et puis voilà, tranquillement, on peut peut-être venir à l'idée que la personne n'en est pas si contente que ça.
Oui, ou tout simplement, peut-être on pourrait aborder le cas de que son entourage, lui, en souffre. Et que
Par exemple,
peut-être qu'il
oui.
faudrait évidemment faire attention. Parce qu'on a bien dit tout à l'heure que Dieu demande que l'ordre amène à être respectueux envers l'autre. Et que là, si l'entourage en souffre, il faudrait qu'il en prenne conscience. Et que peut-être s'il n'en souffre pas, il doit mettre quand même de l'ordre vis-à-vis des autres.
Et donc la grande question, c'est comment amener le changement pour quelqu'un qui est dans le désordre et qui voudrait arriver à l'ordre. Alors, je propose quelque chose de très simple et
Oui.
qui n'est pas livresque. Hein, vous avez eu raison de souligner cette chose-là, hein, quelque chose de pratique. Je crois que une chose qu'on pourrait dire à Dieu, c'est, écoute, je suis d'accord avec toi pour que tu me montres mes désordres et pour que tu me montres comment est-ce que je peux changer. Qu'est-ce que ça suppose, ça? Ça suppose que en moi-même, je ne vais pas nourrir de blocage, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'en moi-même, je vais rester malléable dans la main de Dieu pour que quand la lumière de l'Esprit de Dieu me montrera quelque chose qui ne va pas bien, alors que je puisse reconnaître effectivement que ça ne va pas bien. Reconnaître que je ne m'aime pas. Reconnaître que je n'aime pas ce que je fais ou que ce que je dis, ou ce que je dis. Reconnaître que il y a des gens avec qui je ne suis pas bien. Reconnaître qu'il y a des lieux dans lesquels je ne suis pas bien. Reconnaître qu'il y a des sujets
Qu'on n'aime pas
qu'on
aborder.
n'aime pas aborder, voilà, et on essaye un peu de détourner les choses, ou etc. Et donc, si je suis conséquent et honnête en moi-même, alors c'est là où la lumière de Dieu peut accéder à tous les recoins les plus sombres de mon cœur ou de ma personnalité, et de ce fait, c'est par la prise de conscience de ce qui est vrai que je vais travailler, que je vais me donner cette opportunité d'être en progrès. C'est en comprenant ce qui est vrai que je vais pouvoir faire ce qui est vrai, et en faisant ce qui est vrai, forcément, je vais tendre vers le progrès. Je vais tendre vers quelque chose qui va être plus ordonné et qui va me faire du bien. Et alors il y a une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que plus je le fais, plus c'est facile,
Ça
bien sûr.
marche.
Et le plus difficile, c'est au début.
C'est le
Si j'avais
démarrage.
l'habitude, par exemple, de critiquer tout le monde, et parce que, en fait, l'accusation est le moyen le plus simple de la revalorisation personnelle. Quand j'accuse quelqu'un, je l'abaisse et moi je me relève, je me rehausse. Quand j'accuse...
On croit se relever.
Ah oui, c'est sûr, oui, bien sûr, on croit, vous avez raison de le préciser. Oui.
Parce que...
Et, oui. Et donc, en fait, quand j'accuse quelqu'un, je me mets au-dessus de lui. Hein, je me mets dans un rôle de juge et de ce fait...
Je suis mieux que lui.
Voilà, voilà. Et donc, dans ces cas-là, accepter et dire à Dieu, oui, tous les jours, j'accepte et je te demande de me montrer, en fait, comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu voudrais que je sois? Et que je sois malléable dans sa main, que je sois prêt à le reconnaître et à changer. Alors voilà un grand moteur de changement. Hein, le moteur de changement, c'est, au fond de moi-même, c'est la prise de conscience et la compréhension de ce que Dieu m'appelle à faire.
Surtout que si je reprends le premier exemple que vous avez donné, en disant, par exemple, je ne m'aime pas moi-même, c'est très grave. Parce que s'il ne s'aime pas, il ne peut pas aimer les autres.
Oui.
Et ne pas aimer les autres, on va à l'encontre de ce que veut Dieu.
Eh oui.
Et je ne sais même pas s'il aime Dieu. S'il ne peut pas aimer les autres, s'il n'aime pas, il n'aime pas les autres, il ne doit pas aimer Dieu non plus. C'est important.
Eh oui,
ce désordre-là.
Oui. Et souvent, on ne s'aime pas parce qu'on ne réalise pas à quel point Dieu nous aime, hein, comme vous le faites remarquer.
Mm-hmm.
Prendre conscience de cet immense projet de l'humain et du fait que Dieu veut y habiter avec les humains. Comment dire, si on pouvait avoir une toute petite partie de la réalité du regard de Jésus-Christ sur nous. Hein, que si Jésus rentrait dans cette pièce, il dirait, mais qu'est-ce que je suis content d'être avec vous.
Non, c'est toujours un plaisir. Hein?
Et oui, c'est ça. Et c'est ça l'intérêt, justement, de la relation, de la collaboration, de l'échange, du fait de se connaître, etc. Et l'ordre, donc, c'est avoir conscience, de manière générale, de tout ce que Dieu pense de nous, pense des autres, pense de ce que nous avons à faire. Et dans la mesure où ces choses-là sont très claires, alors c'est plus facile d'être ordonné. Revenons à des choses simples comme ranger sa chambre. Quand je viens dans ma chambre, si ma chambre est rangée, j'ai du plaisir à la regarder. Si ma chambre... quand je range ma chambre, je peux très bien avoir du plaisir même à la ranger. Parce que je sais que finalement Dieu m'appelle de différentes manières à faire des choses. Il m'appelle peut-être à faire des choses qui dérangent, mais à un moment donné, en rangeant, c'est comme si je laissais un peu retomber la pression que je me suis mise. C'est comme si j'avais un temps très utile pour me reconstruire, pour un petit peu comme les périodes d'action et de repos, hein, d'éveiller et d'endormir.
Oui, puis on imagine les conséquences de ce rangement, on sera mieux après, je chercherai moins mes chaussettes, et ainsi de suite.
Voilà, voilà, voilà. Mm. Alors, il y a, par rapport à cette volonté de changement, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est qu'est-ce que c'est que décider ? Décider, c'est tout simplement bien préciser ce que je dois faire et dire, je vais le faire. Décider, c'est poser quelque chose qui m'est accessible, et en général, tout ce que Dieu me demande est accessible, et c'est le faire. Mais peut-être qu'en le faisant, je vais avoir l'impression que ça ne me correspond pas, bien sûr. Si j'ai toujours l'habitude de manger très vite, par exemple, hein, au lieu de savourer les aliments et d'être dans dans une véritable ingestion avec le goût, avec mais si je mange, j'engouffre, etc. D'abord, c'est pas étonnant si après je digère mal.
Bien sûr.
Et donc, pour changer les choses, bien il faut que je mastique. Et ça va me paraître bizarre. Il faut décider. Et décider, c'est pas compliqué. Mais souvent, on se donne toutes les bonnes raisons pour dire, ben ça, je le ferai demain. La procrastination.
Voilà.
Hein? Et donc, on va utiliser un peu des termes savants là pour...
Ça fera mieux.
Hein? Ça fera mieux, oui. Et donc, je peux décider parce que je peux faire des choses simples. Alors, je vous ai parlé de deux choses.
Oui.
La première, c'est décider. Et la deuxième, c'est l'impatience qui peut être une gêne pour moi.
L'impatience est un signe de désordre.
C'est un signe de désordre. Je voudrais changer tout de suite. Oui, mais Dieu nous appelle à vivre, bon, on va dire, environ 80-90 ans. Hein, c'est une moyenne. Et donc, Dieu nous... Pourquoi est-ce que Dieu nous fait vivre tout ça? C'est parce que Dieu veut nous faire l'expérience, une expérience dans laquelle on a du temps, dans laquelle on pose des choses, et réaliser vraiment que je peux, moi, changer. Personnellement, je sais que j'ai changé, sur bon nombre de points. Et pour changer, il faut justement prendre le temps de prendre conscience, prendre le temps de mettre en œuvre, et après prendre le temps de constater que des choses ont changé. Et tout ça, ça demande une décision, ça demande une ouverture à Dieu, qui seul peut nous donner, finalement, tous ces privilèges de l'ordre. L'ordre, peut-être, je voudrais conclure provisoirement sur l'ordre. L'ordre pourrait être, tout à l'heure vous m'avez demandé une définition de l'ordre, et je vous ai répondu quelque chose comme faire les choses avec vérité, avec une vérité qui nous vient de Dieu, de bonne manière. Et je dirais que pour ça, recevoir la vérité de la part de Dieu, recevoir journalièrement la vérité et en être le propriétaire, en être, avoir des pensées personnelles, hein, ne pas vivre parce que les uns ou les autres vont vous dire il faut faire comme ça, du genre j'ai le meilleur médecin de la ville, ou c'est à Carrefour qu'il fallait faire ses commissions, ou c'est là ou là ou là que ce sera le moins cher, ou etc., ou c'est à cet endroit que tu passeras tes meilleures vacances. Oui, mais il faut avoir une pensée personnelle. Et donc je crois que accéder à la vérité que Dieu nous propose d'avoir, c'est un trésor. Et c'est ça qui fait qu'on est ordonné et que finalement, ben, par la suite, on se rend compte que cet ordre nous apporte énormément de profit.
Paul a souvent abordé le thème de l'ordre dans ses épîtres. À Tite, il donne des conseils, qui est un jeune effectivement collaborateur, et Paul, son maître, lui donne évidemment des points à suivre, bien entendu, mais en gros, ça a été abordé dans tout ce qui vient d'être dit. Mais dans une autre effectivement épître, c'est l'épître à Philémon, Paul parle effectivement aussi d'ordre. Et là, c'est beaucoup plus pratique. Et donc, on sait l'histoire. Onésime s'échappe, qui est un esclave, s'échappe de chez Philémon, son maître. Il va jusqu'à Rome. Il a l'occasion de rencontrer effectivement Don Paul.
En prison.
Peut-être même en prison, parce que cet Onésime devait traîner dans la rue et devait être quand même très clair. Il devait être un peu désordonné sur les bords. Hein. Et là, bah, il est converti. Effectivement. Et Paul dit que là, effectivement, si tout simplement on voit un esclave qui est converti, eh bien il doit vivre évidemment dans l'ordre. Alors déjà, un esclave qui s'échappe, ça fait des ordres, bien entendu. Et donc Paul lui demande de regagner effectivement le domicile de son maître. Il doit être un peu réticent, mais il est peut-être convaincu. Mais Paul pense qu'il vaut mieux quand même prévenir Philémon. Philémon qui est donc le chrétien et qui est le maître bien sûr donc de d'Onésime. Et si donc le maître qui est chrétien ne peut pas au nom de l'ordre justement refuser d'accueillir un esclave qui lui revient, et donc là c'est une mise en ordre, et surtout s'il est chrétien, parce que là en fait il est esclave mais c'est aussi son frère doublement. Alors donc là, c'est une mise aussi, c'est une explication, disons, une illustration de l'ordre dans la société.
Oui, on pourrait dire que cette lettre à Philémon parle d'un ordre social qui est très intéressant. Dans un sens, j'estime qu'en France, il y a un désordre social et politique qui est absolument clair dans la mesure où, où nos personnages politiques s'autorisent ouvertement à être médiocres, à s'insulter, à se corrompre, à avoir une vie morale d'orientation particulière, ne pas faire de donner plus de précision. Et donc l'ordre social, l'ordre dans la société, est quelque chose de très important. Et Philémon, qui veut dire d'ailleurs affectionné,
Oui.
hein, comme Habacuc dans l'Ancien Testament, c'est le même sens. Hein. Habacuc c'est en hébreu et Philémon c'est en grec. Et c'est quelqu'un qui a peut-être été élevé et nommé comme ça par des parents qui aimaient leur bébé. Et donc il s'appelle affectionné, qui montre l'amour peut-être qu'il a eu, qu'il a reçu de la part de ses parents. Et Philémon, donc, était propriétaire d'esclaves. Et à cette époque, les esclaves qui s'enfuyaient, il fallait les crucifier. Et donc, Philémon, en ne rendant pas justice à l'égard de son esclave, risquait, au niveau social, d'amener le désordre, finalement, d'inciter les autres esclaves à
À
s'évader,
s'échapper,
dans la mesure où ils
risquer plus
n'encouraient pas
rien.
les peines. Mais d'un autre côté, par rapport aux chrétiens, si Philémon crucifiait Onésime, alors il était aussi dans un désordre particulier. Ce qui fait que ce pauvre Philémon était quand même dans une tension particulière. Mais Paul lui donne des possibilités de rentrer dans un ordre tout à fait précis. Il lui propose de gracier Philémon, il lui propose de le faire avec conviction de la part de Dieu, et peut-être dans une démarche tout à fait libre et personnelle, qui fait qu'il peut gagner les autres propriétaires d'esclaves à un dialogue, à une réflexion, et à entrer dans des situations qui seront profitables pour la société. Alors, ça nous interpelle, ça, parce que finalement, bon, bien sûr, aujourd'hui en France, l'esclavage a été aboli. Donc on pourrait dire qu'on n'est pas concerné par ça. Mais le rapport entre Philémon et Onésime est quand même assez souvent un rapport entre patron et employé.
Bien sûr.
On pourrait dire par exemple que il y a certainement beaucoup d'employés qui ont piqué dans la caisse. Il y a certainement beaucoup d'employés qui ont eu un comportement qui, du point de vue du code de la loi, était répréhensible. Et à partir duquel le patron a le droit d'appliquer la loi de manière tout à fait stricte et de licencier ou de, et au contraire, le patron peut comment dire, user de son autorité pour élever la personne, pour lui apprendre quelque chose, pour faire que l'ordre qui est chez le patron soit un ordre qui soit aussi chez l'employé. Et je vais donner un exemple. J'ai été amené à accompagner un monsieur et qui était assez désordonné, mais gentiment désordonné, mais avec beaucoup de comment dire, de beaucoup de réactions, beaucoup de alors quand son patron lui disait d'aller livrer quelque chose avec le camion, alors lui, il nettoyait la cour.
Ah
Quand
oui.
son patron lui demandait de nettoyer la cour, alors il allait transporter des palettes. Et quand son patron lui demandait de transporter les palettes, alors il allait livrer quelque chose avec le camion. Alors, ce qui fait qu'en fait, c'était quelqu'un qui travaillait bien, ce qu'il faisait c'était très bien, mais qui avait un réel problème avec l'autorité, et chaque fois que l'autorité disait blanc, il devait faire en couleur,
Oui.
etc. Et le patron, j'assistais à l'entrevue de licenciement, mais un monsieur gentil comme tout, et qui lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez, mon brave? Je vous demande de faire ceci, vous me faites cela, je vous demande de faire cela, vous faites autre chose, et quand je vous demande de faire cette autre chose, alors vous faites ceci.
On est en plein désordre.
En plein désordre. Voilà. Et je crois que c'est un peu ça, la position très, très précise, très, très entière de Paul à l'égard de Philémon, en lui disant, mais donne à Philémon sa chance. Onésime, sa chance de progrès, sa chance de... Et puis dans la société, si tu fais les choses bien, alors logiquement, tu devrais aussi amener les autres personnes à faire bien.
Oui, oui. Donc en fait c'est ça, le but de Paul, c'est de dire à Philémon, tu accueilles comme un frère un ancien esclave qui s'est échappé, il s'est converti, bien sûr, c'est ton frère, donc tu lui donnes la chance de refaire sa vie auprès de toi, mais cet exemple peut servir aussi, disons, aux autres maîtres qui hésiteront peut-être à ne pas crucifier, qui hésiteront à crucifier leurs esclaves qui s'échapperaient. Donc il y a deux choses là.
Et alors implicitement, Paul va dire à Philémon quelque chose de très profond et de très important. Il va lui dire, Philémon, tu as autorité sur ta propre vie. Tu peux, toi, choisir bien ou mal. Tu peux, toi, grâce à la vérité que tu as comprise, savoir ce qu'il faut que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Avoir autorité. Mettre de l'ordre, et ça pourrait être une sorte de conclusion dans notre discussion, mettre de l'ordre dans sa vie, c'est comprendre que j'ai autorité. Si, par exemple, je sais que je vais me faire mal au dos, en transportant des sacs trop lourds, je ne les transporte pas. J'ai autorité pour ne pas les transporter. Mais si je sais que ça va me coûter cher de les faire transporter par quelqu'un, c'est pas le problème que ça coûte cher. Moi, je ne veux pas me faire mal au dos. Et donc, en fait, je vais demander à quelqu'un qui est plus fort et qui ne se fera pas mal au dos.
Qui a l'habitude.
Et qui a l'habitude de transporter ses sacs de ciment, par exemple. Mmh. Avoir autorité dans sa vie. Le problème, c'est que, à l'égard de bien des situations, nous ne comprenons pas que Dieu nous a donné autorité dans ce que nous vivons. Avoir autorité, c'est finalement comprendre que je peux comprendre. Comprendre que j'ai suffisamment d'éléments pour bien faire ce que je suis appelé à faire. Avoir autorité. Une deuxième chose que Paul dit implicitement à Philémon, c'est que il peut savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il peut discerner l'ordre et le désordre. Philémon, ne crucifie pas Onésime. Ça, c'est du désordre. Mais Philémon, si, comme moi, tu te places devant Dieu, mais ça va être évident que c'est du désordre. Mais il faut que tu arrives, en fait, à ça. Et dans la mesure où tu en seras pleinement convaincu, alors ça se passera bien. Mais alors, on pourrait dire, est-ce que chacun peut arriver à cette pleine conviction? Il y a tellement de cas particuliers. Est-ce que l'Esprit de Dieu s'occupe de tout le monde comme ça, avec des cas particuliers? Eh bien, ma réponse, c'est certainement oui. Quand Paul parle ainsi à Philémon, il s'adresse à quelqu'un qui est dans des circonstances tout à fait particulières, mais l'épître à Philémon, je crois qu'elle doit faire 21 ou 22 versets, elle n'est pas très longue.
Oui, non.
Et les exhortations de Paul à Philémon ne sont pas très nombreuses. Comme si finalement Paul était en train de dire à Philémon, écoute, moi je te dis l'essentiel, mais si vraiment tu veux avoir des notions très précises de là où tu dois progresser, alors écoute Philémon, ouvre tes oreilles,
oui,
ouvre tes yeux,
à
toi de prendre ta décision parce que tu auras... entendu, ouvre tes oreilles, tu auras vu, ouvre tes yeux, et de fait, tu n'auras pas besoin de moi, en fait. Et il lui écrit, d'ailleurs, à ce moment-là, Paul est en prison, sous Néron,
oui.
Il est à Rome, on pense qu'il est entre les années 60 et 62, et il est emprisonné, il parle de ses liens, et il dit, moi je suis un vieillard, il est un peu incapable d'abord de se libérer, mais ensuite, et donc, comme vous l'avez dit, c'est comme ça qu'il avait connu Onésime, et... il semble que sa situation soit quand même assez particulière, et j'ai un peu l'impression qu'il dit à Philémon, écoute, fais ton chemin, ouvre-toi à Dieu, ouvre-toi à l'Esprit, et l'ordre dans lequel tu dois rentrer, bien, c'est clair que tu le trouveras.
Oui, bien sûr.
Quelques mots pour conclure?
Oui.
Je crois que cet ordre auquel Dieu nous appelle, il est à la portée de tout le monde. La grande question, c'est est-ce que je veux, moi, vivre l'ordre? Est-ce que je veux, moi, ne pas craindre dans le désordre, qui peut-être me plaît, de dire à Dieu, écoute, montre-moi vraiment ce qui me fait mal. Parce que peut-être que ça me plaît de vivre dans une demi-douleur, mais si je n'avais que le quart de la douleur, ça serait mieux.
Oui.
Hein? Et donc, il faut avoir cette énergie spirituelle d'être d'accord avec Dieu et de lui demander de nous conduire sur un chemin de progrès. Ça peut paraître difficile, compliqué, mais plus on y accède, alors vraiment, je crois que vous et moi, on est là pour dire que ça vaut la peine.
Certainement.